Donc les lanceuses et lanceurs d'alerte sont avant tout des citoyens ordinaires attachés aux principes fondamentaux qui nous permettent de faire société. Alerter se rattache la plupart du temps à ces principes que nous vous proposons en début de chaque rencontre. Donc le sujet de celle-là, alerte, que faut-il faire pour qu'elle soit instruite ? La charte de l'environnement, article 1er. Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé. Article 2. Toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à l'amélioration de l'environnement.
Et sachez une chose, c'est que tous les héros n'ont pas de cap.
C'est bientôt demain.
Le monde d'après, c'est maintenant.
C'est bientôt demain.
Ok, boomer.
France Inter.
C'est bientôt demain.
C'est bientôt demain.
Le monde d'après, c'est maintenant.
Antoine Chao.
Maison des sciences de l'homme, Paris Nord. Avenue Georges Sand. 8e rencontre annuelle des lanceurs d'alerte. 10, 11, 12 novembre 2023. Et aujourd'hui, dimanche 12 novembre, à 11h, à l'auditorium, alerte, que faut-il pour qu'elle soit instruite, avec Thomas Braille, Irène Frachon, Brigitte Gauthier, Julien Leguet et Florian Lemerle, animé par Daniel Ibanez.
Bonjour, messieurs, dames. Vous êtes visiteurs, vous êtes intervenants.
Oui, on est bien accueillis, que l'on soit visiteur ou participant à une rencontre. Et non, pas besoin d'avoir une cape de super-héros, comme le précise Thomas Braille, du groupe national de surveillance des arbres. Pour lancer une alerte et faire acte de citoyenneté, il suffit d'avoir quelques convictions et un peu de détermination à préserver la démocratie et défendre l'intérêt général. C'est une des leçons à retenir de cette 8e édition des rencontres annuelles des lanceurs d'alerte, organisée par un collectif bénévole orchestré par Daniel Ibanez, lui-même lanceur d'alerte sur le projet du Lyon-Turin. Même si depuis la loi Sapin 2, promulguée en 2016, qui protège les lanceurs d'alerte, qui a été renforcée en mars 2022, l'alerte reste périlleuse pour celui qui la lance et la porte.
C'est bien demain sur France Inter.
Daniel aime toujours faire rappel aux textes fondamentaux. Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 26 août 1789. Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression. Article 15. La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration. Je vous souhaite une bonne rencontre.
Bon, Daniel Ibanez, c'est la 8e de ces rencontres des lanceurs d'alerte. Comment tu vois évoluer, toi, l'alerte et le portage de l'alerte depuis toutes ces années où toi, tu t'impliques en tant que lanceur d'alerte et en tant que défenseur de l'alerte, quoi, à travers ces rencontres?
Il y a des évolutions. Alors, cette année, c'est encore des rencontres exceptionnelles, des rencontres avec des personnes exceptionnelles. SOS Méditerranée, Daniel Pénac qui s'engage, Éry Deluca qui va sur les bateaux pour sauver les personnes. D'ailleurs, je vais appeler cette rencontre « La fraternité nous oblige » et aujourd'hui, avec ce que l'on voit, j'ai tweeté un truc l'autre jour, c'est « L'humanité nous oblige ». Et ce matin, par exemple, dimanche, là, on a une rencontre avec comment faire pour que les alertes soient instruites, avec à la fois Bassine Non Merci, Julien Leguet, avec Brigitte Gauthier, avec les soulèvements de la Terre, avec Irène Frachon. Et tout le monde me dit, mais comment tu mets sur une même table, sur une même rencontre, Irène Frachon, Thomas Braille, Julien Leguet, et ces gens-là arrivent à discuter entre eux alors que les thématiques sont complètement différentes et à dire oui, il y a une communauté d'action à avoir, de réflexion sur l'alerte, et ça c'est une vraie évolution parce que je crois que dans les premières années l'alerte était vraiment sectorisée, pour pas dire communautarisé, mais voilà, ça c'est une vraie évolution, c'est cette transversalité de la discussion, et je pense que c'est une vraie évolution sur la perception de l'alerte. Je crois que de plus en plus les gens se rendent compte que c'est un acte de citoyenneté, et que ça n'est pas le fait de gens extraordinaires, mais de citoyens ordinaires, et je crois que c'est ça qui est vraiment important à retenir. Mais dans un monde qui se dérègle à tous les sens du terme, que ce soit des règlements climatiques, mais aussi des règlements économique, des règlements démocratiques, je pense qu'il est nécessaire d'avoir des citoyens qui ont conscience que l'alerte n'est pas simplement un droit d'expression, mais que c'est finalement le devoir de préserver la planète, c'est le devoir de ne pas nuire à autrui, c'est le devoir de répartir justement les richesses, c'est le devoir d'égalité entre les hommes et les femmes. Donc, oui, ça, ce sont des vraies évolutions.
Voilà, et les livres des intervenants sont vendus en bas. Hein. Ce n'est pas une bibliothèque, c'est une librairie. Vous pouvez retrouver les invités en bas à la librairie au Rez-de-Jardin. Voilà, merci.
Merci à tous et à tout de suite dans l'espace librairie.
Je suis Brigitte Gauthier, je suis une des fondatrices de l'association L214. Alors L214, c'est une association qui a 15 ans aujourd'hui, qui a la grande chance d'avoir 50 000 membres, un peu plus de 50 000 membres, et qui concentre son action autour de la question des autres animaux, plus particulièrement les animaux qui sont destinés malheureusement aujourd'hui à la consommation alimentaire, donc pour fournir viande, lait, œufs et poissons, avec l'idée d'une société qui considérerait les animaux vraiment comme des êtres doués de sensibilité, avec leur propre singularité, et non plus comme des ressources à notre disposition. Donc c'est tout un nouveau monde qui s'ouvre à nous, où on vivrait plutôt en bonne intelligence avec les animaux plutôt que de vivre sur leur exploitation. Alors nous, on est à la fois lanceurs d'alerte et relais d'alerte. Lanceurs d'alerte parce que on met à jour une situation qui est souvent cachée, et c'est pas juste qu'on ne veut pas la voir, c'est que vraiment il y a des forces, une industrie agroalimentaire qui n'a pas envie qu'on sache dans quelles conditions on obtient les produits comme la viande, le lait, les œufs ou même les poissons qu'on trouve sur les étals. Et donc nous on a cette mission qu'on s'est donnée de montrer, de révéler, et en ce sens on lance l'alerte, et d'ailleurs on tombe sous des procédures bâillon pour essayer justement de remettre le couvercle sur la marmite et essayer d'entraver l'alerte.
Et quels outils vous utilisez? Les outils qui commencent à exister, qui ont été développés juridiquement pour défendre l'alerte, est-ce que vous les utilisez, vous, en tant que L214?
Alors nous, on ne rentre pas dans ce dispositif-là, et d'ailleurs ça a été des discussions autour de la loi lanceur d'alerte. Justement, les facilitateurs d'alerte, comme peuvent l'être L214, ne sont pas considérés. Le parcours des lanceurs d'alerte, il est vu comme interne dans des entreprises, où on doit d'abord parler à son premier supérieur, puis ensuite au-dessus, puis on peut faire appel aux défenseurs des droits, il y a tout un parcours qui est fléché. Et en fait, qui est inopérant, en tout cas pour les organisations comme la nôtre.
C'est quoi vos moyens d'instruire à vous, donc, L214?
Alors avec L214, lancer l'alerte, c'est par les enquêtes vidéo, ça tout le monde le sait. Et ensuite, pour instruire l'alerte, on va actionner différents leviers, très nombreux finalement. Le levier juridique, avec des plaintes auprès de tribunaux correctionnels quand il y a des mauvais traitements sur les animaux dans les images qu'on peut montrer. Le tribunal administratif, où on a obtenu par exemple 4 condamnations de l'État pour dysfonctionnement des services de contrôle dans les abattoirs. On va actionner aussi auprès des entreprises le levier de les convaincre d'avancer, de s'engager à faire reculer le pire de ce qui se passe dans les élevages et dans les abattoirs, avec des chartes d'engagement. Et quand il n'y a pas d'engagement, on rend public ce non-engagement par une mobilisation citoyenne qui est rendue possible notamment par les groupes locaux de L214 qui quadrillent à peu près tout le territoire. La force citoyenne, en fait, on essaye de l'assembler pour pouvoir montrer en fait une détermination, parce que c'est peut-être de ça que les lanceuses et lanceurs d'alerte manquent, c'est de réussir à montrer combien les citoyennes et les citoyens sont d'accord avec LAE. Quand on fait des sondages, on le voit, mais sur la mobilisation de terrain, tout le monde ne sort pas le week-end faire une manifestation. Donc comment on montre cet engouement citoyen autour des questions qu'on porte, c'est ce qu'on essaye de faire en développant, nous, des sites internet qui sont contributifs, où on peut passer de l'action individuelle à l'action collective en sollicitant telle entreprise, en sollicitant telle politique, et c'est ce qu'on fait par l'intermédiaire de nos sites internet ou de nos actions dans la rue.
Les mentalités évoluent depuis 15 ans.
Oui. Alors on peut le voir. Hein. Les mentalités, elles évoluent au fur et à mesure. D'abord, la question des animaux qui sont élevés pour notre consommation alimentaire, elle était complètement absente du débat public, justement il y a une quinzaine d'années. Le fait qu'on ait montré des images, qu'il y ait des livres qui soient sortis, des reportages qui soient faits notamment par les journalistes, fait que aujourd'hui, cette question, elle est quand même dans le débat public, elle arrive par vague, elle vient, elle repart, mais en tout cas, elle est là. Quand on parle de défendre les animaux, on parle aussi de ces animaux-là qui sont, pour la majorité d'entre eux, enfermés dans les bâtiments et tués dans les abattoirs.
Alors, L214, un livre avec la préface de Brigitte Gauthier. On va descendre pour le dédicacer. Voilà, ça aussi, c'est passé de l'alerte à la lettre et c'est important de soutenir ces démarches.
Antoine Chao,
c'est
bien,
bien,
tôt,
demain.
Alerte
sur France Inter.
Que faut-il faire pour qu'elle soit instruite ?
Julien Leguet, vous, avec Bassim Non-Merci, vous avez mené des longues années de lutte pour, justement, dénoncer cette aberration des bassines, hein, de ces réserves d'eau complètement aberrantes par les temps qui courent. C'était important de le dénoncer. Et comment vous y êtes arrivé ? Parce qu'aujourd'hui, effectivement, ça devient une cause qui est devenue une cause nationale. Hein. Ouais. Est-ce que vous vous considérez comme lanceur d'alerte ?
Est-ce que le terme de lanceur d'alerte, c'est un terme qui résonne chez nous ? Oui, évidemment. Est-ce qu'on considère que notre mouvement, il est dans cette mouvance-là ? Oui, évidemment. Donc est-ce qu'on a notre place ici et non, on était ravis d'être invités et de voir ce qui se passe ici. C'est un vrai creuset et justement puisque ces rencontres elles touchent plein de thématiques différentes, bah, c'est toujours passionnant de voir des gens qui agissent face au même type d'oppression avec les mêmes systèmes, les mêmes techniques de communication, etc. sur d'autres champs. Ça renforce, ça ouvre la perspective. La satisfaction par rapport au dossier bassine, bah, c'est qu'on a quand même l'impression qu'au niveau maintenant médiatique et ce que ça donne au niveau de la société, c'est une alerte plus large. C'est une alerte sur les enjeux de l'eau dans leur globalité, et c'est une alerte sur le système agricole qui a généré ces problèmes d'eau, et donc qui disent en filigrane l'importance de le réformer urgemment et de tourner le dos des pesticides, de reposer fortement la question de la place de la viande dans notre alimentation, du bien-être animal, des conditions sociales, etc. Donc il y a une vraie satisfaction de dire on a lutté d'abord contre un projet local qui a trouvé une résonance nationale. Parce qu'on a su dire qu'en fait, on était un laboratoire. Ce dispositif-là, en fait, il avait vocation à être généralisé et à être présenté comme une technosolution applicable à l'ensemble des territoires en stress hydrique. Donc, toutes les premières actions qu'on a menées, c'était des actions très grand public, permettant aux gens de comprendre pourquoi ces bassines étaient problématiques. Ce qu'était une méga-bassine, à destination de qui c'était politiquement, comment c'était soutenu, etc. Parce qu'en fait, quel que soit l'angle dans lequel tu les prends, c'est scandaleux. Tu pourrais le prendre que sous l'angle du conflit d'intérêts et du détournement d'argent public, que déjà, ces projets ne devraient pas voir le jour. Tu peux les prendre sous un angle très naturaliste. Donc voilà, ça, on a d'abord ancré la lutte localement, et on a eu, en effet, la chance que, parce que localement, les associations, les organisations comme la Confédération Paysanne ou la CGT, par exemple, ben, ont pleinement habité cette lutte, ils ont su aussi solliciter et alerter à l'échelle de leur propre syndicat. Et c'est monté au national. C'est devenu des luttes phares pour Sud Solidaire, pour la Confédération Paysanne, pour la CGT. Et puis, ben, y a aussi cette rencontre avec les soulèvements de la terre. En redisant bien que BNM, on est soulèvement de la terre depuis le début. On a signé l'appel d'emblée. On construit en fait la lutte à l'échelle nationale ensemble. Et on est allé les rencontrer un mois d'août, un mois avant que les travaux commencent, avec ce truc de dire mais là il y a une urgence, ça va démarrer, on a tout fait, on a tout essayé, et puis ils arrivent, les pelleteuses, elles vont tout défoncer, et là on a rencontré une autre culture, une autre manière de faire, d'autres manières d'agir, où on va être capable de s'engager physiquement, de bloquer, d'empêcher, éventuellement désarmer. Moi, je suis très à l'aise et je revendique, hein, le fait. On est bien allé dans une bassine à Cranchaban. Un jour de manif, on nous avait interdit de manifester là où il y avait une bassine en chantier. Et après s'être fait largement gazer, alors qu'on était dans des démarches pleinement pacifistes, ben, d'un élan commun, on est allé débâcher une bassine illégale. Alors, on était un peu en avance dans l'histoire, puisque la semaine dernière, il y a un haut fonctionnaire du ministère de l'Agriculture qui a répondu à un journaliste de reporter que oui, les bassines illégales, elles devraient être bouchées. Ce qui fait un foin pas possible. Il y a des démentis de Fesneau et compagnie. Non, il l'a bien dit. Et puis en plus, l'État tient la ligne d'appliquer les décisions de justice, oui, l'issue, c'est de reboucher les bassines.
Daniel, il a été évoqué ce matin le rôle des journalistes, hein, et des médias dans le fait de porter l'alerte aussi, hein, ou de relayer en tout cas les lanceurs d'alerte. Il y a eu la projection du film Algues Vertes, hein, avec Inès Leroux et Morgane Large qui étaient là, donc qui sont effectivement des journalistes qui ont porté les alertes en Bretagne notamment sur la question des algues vertes. Est-ce que ça évolue ? Est-ce que tu sens qu'il y a une prise en charge plus importante de l'alerte par des investigations journalistiques et par des médias qui s'engagent justement sur ces questions ?
Alors, la question, et c'est vraiment la question que l'on a essayé de poser ce matin, c'est comment le journaliste est un acteur de l'alerte, un acteur complémentaire de l'alerte, et comment on traite l'alerte quand on est journaliste, c'est-à-dire est-ce qu'on traite la personnalisation de l'alerte à travers un lanceur d'alerte à qui on fait porter, et je dis bien on fait porter, non pas qui porte, mais on fait porter un combat, une alerte, ou est-ce que, justement, il faut qu'on trouve des moyens entre journalistes et monde de l'alerte pour que les alertes soient traitées, que ce ne soit pas une héroïsation des lanceurs d'alerte, parce que cette héroïsation a pour effet pervers, en fait, de rejeter les citoyens ordinaires, parce qu'ils se disent, il faut être un héros.
Oui, on a besoin de cap pour être un lanceur d'alerte.
Exactement, il n'y a pas de cap, on n'a pas besoin d'un déguisement en Superman. Voilà. L'alerte, c'est vraiment l'affaire de tous et chacun. Le lanceur d'alerte, il dit, il faut préserver la planète et les ressources en eau, etc. etc. Et donc, oui, il faut absolument s'engager dans la vie du pays. Il ne s'agit pas de dire, je m'engage dans un parti politique ou dans un autre. Il s'agit de dire, il y a des règles dans la République et on va les faire respecter.
Vous pouvez retrouver l'ensemble des rencontres en ligne sur le site des rencontres annuelles des lanceurs d'alerte. Merci à Brigitte Gauthier de L214, à Julien Leguet de Bassinon-Merci, à Daniel Ibanez, à la librairie Le Presse-Papier à Argenteuil et à tous les bénévoles qui organisent joyeusement ces rencontres. Toutes les infos sont sur la page de C'est bientôt demain sur franceinter.fr et on se retrouve la semaine prochaine à l'antenne et en podcast.